Prendre place. Bienvenue à tous pour ce conseil municipal, le troisième de la mandature, si ma mémoire est bonne, qui est donc un conseil évidemment éminemment important puisque c'est le premier débat d'orientation budgétaire de la mandature. Et donc Monsieur Lejean va être particulièrement mis à contribution lors de ce conseil puisque l'essentiel des rapports ont trait avec les finances de la commune et ils ont été présentés en commission des finances
tout à fait.
La semaine dernière. Je vais donc évidemment procéder à l'appel comme d'habitude. Monsieur Tom Laborde, je l'ai vu. Monsieur Yann Guimard, je l'ai vu aussi, présent. Monsieur Pierre-Léon Luneau, présent. Madame Janine Le Golban, présente. Madame Juliette Cordès, Monsieur Philippe Le Guénec, Madame Françoise Le Pennec, Monsieur Christophe Richard, présent. Madame Morgane Petit, présent. Monsieur Jean-Paul Kergosien, Monsieur, Madame, Monsieur, Madame Christine Desjardins, pardon. Madame Christine Desjardins, le cas, vous êtes présente. Monsieur Olivier Buquin, présent. Madame Marie-Pierre Gasser, présent. Monsieur Jean-Luc Servet, présent. Madame Christine Lamandé, présent. Monsieur Michel Durand, présent. Madame Catherine Isoa, présent. Monsieur Loïc Coudois, présent. Madame Catherine Alain, présent. Monsieur Marc Albert est en vacances, il a bien de la chance, il a donné un pouvoir à monsieur Michel Durand. Madame Sylvie Robineau, présent. Monsieur Pascal Lejean,
présent.
C'est fort heureux. Madame Nadine Rouet, présent. Monsieur Paul Chapelle, présent. Madame Katia Sculot, présent. Et monsieur Olivier Lepic, présent. Nous avons donc le quorum pour pouvoir délibérer et je propose à Benjamin, comme d'habitude, d'être la secrétaire de séance. Enfin, c'est là, Benjamin, où on peut prendre le Benjamin aussi, mais la parité exigeant qu'on change. Je crois que la dernière fois, c'était Tom, non? Bon, donc, on va prendre Morgane cette fois-ci. Merci, Morgane. Je vous propose donc de passer directement au rapport numéro 3, puisque les approbations des procès-verbaux de la séance du 6 juin ne pouvant être votées, le compte-rendu et le procès-verbal n'étant pas prêts, et donc de passer directement au compte-rendu des décisions du maire, assez peu nombreuses puisqu'elles comportent les numéros de 44 à 46. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire? Madame Le Golvan.
Moi, je n'avais pas de questions pour les décisions du maire. Par contre, on avait posé une question au dernier conseil municipal. Il n'y a pas l'approbation et tant pis. Ce serait de savoir qui étaient les conseillers délégués et quelle était leur mission,
si on pouvait,
si vous pouviez nous répondre.
Dès que ce sera fait, on vous avertira. Les délégations ne sont pas encore signées.
Pourtant, certains se sont présentés déjà
oui,
comme
délégués. Oui, bien sûr, parce qu'ils le savent, mais administrativement, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Mais vous le saurez très rapidement, ne vous inquiétez pas.
D'accord, merci.
Sur les décisions du maire, pas de questions?
Moi, je vais en avoir une.
D'accord. C'est une explication ou une question?
Ouais, une explication. Ah, juste sur la 46, j'en profite parce que trésorier étant là, M. Boitourin, pour l'aménagement du boulevard La Plage, la PCP, on a fait des avances sur les entreprises. Et donc, il y aura une modification de la PCP qui passera au prochain conseil municipal, puisque l'avance, on ne peut pas la déduire des factures. Donc, on va avoir une augmentation de la PCP et on aura un crédit de l'autre côté au niveau des avances. Pour un montant de 250 000 euros.
Merci, Monsieur Lejean, de répondre aux questions qui ne sont pas posées. C'est particulièrement transparent de votre part. C'est vrai que Monsieur Lejean est sous un contrôle extrêmement strict de Monsieur Boutara, que je n'ai pas salué, hein, qui est notre trésorier payeur, qui donc traditionnellement, et je le remercie, assiste aux conseils municipaux lors des votes du budget administratif et également des DOB assez régulièrement. Et donc, je le remercie de sa présence. On passe immédiatement, Monsieur Lejean, au budget principal et au compte de gestion de la commune 2019. Je vous laisse la parole.
Alors, je vais laisser la parole à M. Boitoura qui va nous expliquer le compte de gestion. Et je ferai le détail, moi, du compte administratif.
Bien, ben merci beaucoup et puis eh bien, félicitations aussi pour les élections. Donc au moins pas de deuxième tour pour vous. Donc si vous voulez, donc je vais d'abord vous présenter les résultats du compte de gestion, donc du budget de la commune et du budget Musée Carnac, et puis ensuite vous faire juste quelques petits points, mais assez rapides, puisque vous allez avoir beaucoup de chiffres ce soir. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Donc concernant le budget principal, donc vous avez un résultat d'investissement de moins 729 599,51 en cumulé et en fonctionnement de plus 3 662 582,46, donc ce qui donne un résultat global pour la commune de 2 932 982,95. Pour le budget du musée, donc le budget annexe, donc on a un déficit d'investissement de 61 561,34. Donc voilà les résultats du compte de gestion de l'exercice 2019. Donc concernant quelques petits points rapides pour situer un petit peu la commune par rapport aux communes de la strate au niveau national ou régional, mais surtout au niveau des... je vais plutôt faire les comparaisons avec les moyennes des communes touristiques, puisque donc il y a quand même de grosses différences avec une commune, je dirais, classique d'une taille comme Carnac, et une commune, je dirais, classique où on n'a pas une population touristique et secondaire aussi importante, hein, puisque à titre de comparaison, si on fait les comparaisons sur les moyennes de la strate, on compare sur 4381 habitants, hein, sur l'exercice 2019 pour Carnac, alors que si on prend en compte la population DGF, on est à 10462 habitants, donc plus du double. Hein, donc c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir en comparaison par rapport aux produits de fonctionnement ou aux charges de fonctionnement, forcément. Donc concernant les produits de fonctionnement réels, donc on est un peu plus de 11 millions sur l'exercice 2019, hein, en légère baisse de 1,5%, ce qui représente 1 117 € par habitant au niveau de la population DGF. Donc par rapport à la comparaison des moyennes touristiques de la strate, c'est quasiment similaire, hein, ça représente 1 151, donc un tout petit peu moins. Hein, donc pour les communes, pour la dotation globale de fonctionnement, donc ça représente 832 000 €, ce qui fait 80 € par habitant contre 120 en moyenne pour les communes touristiques, donc un petit peu moins aussi de DGF que la moyenne des populations touristiques. Concernant les charges de fonctionnement réelles, donc elles ont fortement diminué de 13,2%. Alors en grande partie, c'est parce qu'en l'exercice précédent, on a vu les renégociations de dettes, donc avec un montant de charges financières plus important. Donc les charges de fonctionnement réel s'élèvent à un peu plus de 8 millions d'euros, ce qui représente 779 € par habitant contre 960 en moyenne. Donc de ce fait, donc la capacité d'autofinancement, donc du fait de la forte baisse des charges de fonctionnement, a fortement progressé, hein, par rapport à l'exercice 2018, ce que ça représente un peu plus de 3,5 millions, donc soit 808 € par habitant. Les dépenses d'équipement, donc là aussi, donc une très forte progression des dépenses d'équipement en 2019, hein, un peu plus de 7,5 millions d'euros de dépenses d'équipement, donc soit pratiquement plus du double que la moyenne des communes touristiques de 10 000 habitants et plus, hein, ce qui représente 718 € par habitant contre 289 pour les communes équivalentes. Donc là, un fort effort d'investissement, donc bon, d'autant plus que sur l'exercice, il n'y a pas eu d'emprunt. Hein, donc c'est aussi à noter. Donc l'intégralité a été autofinancée, et puis bien sûr avec les subventions pour partie, hein, à hauteur de 418 000 €, le fonds de compensation de la TVA également. Donc concernant l'encours de dette, maintenant, donc on a un encours d'un peu plus de 4 millions d'euros, hein, ce qui représente 998 € par habitant population INSEE, mais 418 € par habitant population DGF, contre 1 038 €, donc un endettement extrêmement maîtrisé au niveau de l'encours, hein, puisqu'il représente un peu moins de la moitié des communes touristiques de la strate. Donc concernant les différents ratios, donc le premier, le ratio de rigidité et charge structurelle, donc il va permettre d'apprécier la proportion des dépenses obligatoires, c'est-à-dire les charges de personnel, les contingents, donc les participations au SDIS, les charges d'intérêt. Donc quand on rapporte aux produits de fonctionnement, donc on est à 35,19%, donc c'est un ratio qui est extrêmement, bien placé, hein, puisqu'on estime que dès lors qu'il est inférieur à 47%, c'est correct. Donc là, on est bien inférieur, donc il n'y a pas de souci. Le fonds de roulement, donc lui, donc du fait notamment de ce que je disais tout à l'heure, donc d'un effort d'équipement très important sans emprunt supplémentaire. Donc là, en termes de nombre de jours de charge réelle de fonctionnement, on est à 127 jours. Donc là, c'est un petit peu faible. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu l'indicateur qu'il faudra peut-être améliorer ou en tous les cas veiller à ce qu'il ne diminue pas plus pour garder de la souplesse et ne pas avoir de problème de trésorerie au niveau de la collectivité. Concernant le ratio d'endettement, donc ça représente, il est à 0,37, donc soit 4 mois de produits de fonctionnement, donc là il n'y a pas de souci, hein, donc extrêmement extrêmement bien placé. La capacité de désendettement aussi, donc au regard de la CAF, hein, donc on a des CAF, donc on est à 1,24, donc c'est un ratio qu'on estime tout à fait correct dès lors qu'il est inférieur à 3, donc là on est encore 1,24, donc extrêmement bien placé. Donc ça veut dire que la collectivité, au vu de ce qu'elle arrive à dégager sur sa capacité d'autofinancement, n'aura pas de difficulté à faire face à son endettement, à sa dette. Le dernier coefficient donc d'autofinancement courant, donc lui va mesurer, si vous voulez, l'aptitude de la collectivité à autofinancer ses investissements une fois qu'elle a remboursé ses charges et payé ses intérêts et remboursé la dette. Donc ce ratio est à 0,75. Donc là aussi, pas de souci particulier. Hein, donc en moyenne, il est à 0,78. C'est un ratio qui doit être inférieur à 0,94. Donc il n'y a pas de problème sur cet indicateur-là. Concernant la situation fiscale, donc la population légale, donc je l'ai dit, 4381, donc la population INSEE. Donc sur Carnac, donc vous aviez 2979 foyers fiscaux. 51,6% sont non imposés, hein, contre une moyenne départementale de 57,4%. Le revenu moyen fiscal par foyer est de 32 089 euros contre 26 710 en moyenne. Donc nombre de logements imposés à la taxe d'habitation, 7 834. Hein, donc 68,8% de résidences secondaires. Donc là aussi, c'est intéressant, hein, du fait de la réforme de la taxe d'habitation, la réforme de la taxe d'habitation ne s'appliquera pas sur la résidence secondaire. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous. Voilà, donc pour le reste, hein, je ne vais pas plus m'apesantir. Hein, concernant juste un petit point quand même, mais là qui n'a rien à voir avec l'exercice 2019, hein, sur la crise qu'on connaît encore, hein, malheureusement. Donc là, c'est vrai que vous allez voir très vraisemblablement tout à l'heure avec Monsieur Lejean dans le cadre du DOB. Hein, donc c'est vrai que votre commune va forcément être impactée par la crise Covid, hein, donc puisque c'est vrai qu'on estime que principalement ce sont les recettes qui proviennent des casinos lorsqu'il y en a, des campings lorsqu'il y en a. Donc vous n'avez pas de campings municipaux, mais donc vous avez un casino, vous avez la taxe de séjour, vous avez les droits de mutation. Hein, donc pour info, donc les recettes du casino représentent quand même un peu plus de 6% de vos recettes réelles de fonctionnement. Et 27% de la CAF, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Les recettes de la taxe de séjour, donc c'était à peu près 5,72% des recettes réelles de fonctionnement et 23% des recettes de 23% de votre CAF. Et le dernier, donc le plus important, les droits de mutation. Donc là, c'est un peu plus de 9% des recettes réelles de fonctionnement et 39% de votre CAF. Donc c'est vrai que si on additionne toutes ces trois recettes sur un l'ensemble de l'exercice, c'est 89% de la CAF, donc c'est quand même énorme. Alors c'est vrai que c'est sur un exercice entier, hein, mais c'est vrai qu'il faudra quand même être vigilant. Alors donc l'État donc a prévu une dotation particulière à hauteur de 750 millions d'euros donc au niveau national, hein, qui visera à compenser pour partie les pertes de recettes des collectivités, notamment des collectivités touristiques, qui seront impactées par des baisses de recettes moyenne sur l'exercice 2017 à 2019, mais ce sont vraiment, ça restera une moyenne, et sur ce fond-là, bien sûr, les mesures qui auront été prises par les collectivités pour accompagner les commerces ou les usagers, bien forcément, ça ne sera pas pris en compte par ce fonds-là. Donc, pour le moment, on n'a aucune idée savoir si Carnac bénéficiera ou non de cette participation, de cette dotation, et à quel, pour quel montant non plus. Mais bon, en tous les cas, ce fonds existe, cette participation existe. Donc, on verra dans les mois qui viennent, lorsque tout ça sera un peu plus clair et calé. Voilà, je vous remercie.
Il y a des questions sur cette présentation du trésorier. Pas de questions. Mais je vous propose donc de passer au vote. Il vous est donc proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par M. le trésorier de Carnac, receveur de la commune, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part, ce qu'il nous a signifié. Et enfin, d'approuver le compte de gestion 2019 de la commune de Carnac. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 5. C'est le compte de gestion du musée, cette fois-ci, toujours pour le même exercice. 2019.
Je vous laisse. Toujours voilà, continuer. Je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est vrai, j'ai présenté les deux en même temps. Parce qu'il y avait juste un résultat d'investissement à reprendre.
Voilà.
Donc, voilà, 561,34 en déficit.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget, ce compte de gestion du musée 2019? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On passe au compte administratif. Cette fois-ci, c'est Monsieur Lejean.
Voilà. Merci, Monsieur le maire. Donc, juste les documents que vous avez. On va peut-être passer le PowerPoint, voilà, qui va être plus simple. Donc, il va reprendre les grands éléments que vous avez expliqués, Monsieur le trésorier. Donc je vais essayer de faire un petit peu court quand même. Sur la première diapo, la numéro 15, on a un petit récap qui va vous permettre de voir les différentes années. Il va venir. Ah tiens, il y a un ancien modèle. Voilà. Donc là, vous avez un petit graphe qui vous reprend effectivement depuis 2013, qui vous montre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, les évolutions qu'il y a eu, donc ce qu'a repris tout à l'heure M. Boitura. Vous avez le détail, on va rentrer dans le détail des recettes et des dépenses, vous les avez voilà depuis 2012, là, les différentes choses. Donc on voit l'écart qui effectivement s'est creusé au niveau des dépenses par rapport aux recettes. Donc les recettes ont progressé quand même de 367 000 euros, surtout sur des recettes liées au casino, droit de mutation et la taxe de séjour. Sur les dépenses, vous avez les grandes masses de dépenses au niveau salaire, frais généraux, subventions, contributions et les frais financiers. Voilà, on va prendre celui-là, pareil de 2012. Donc des frais financiers qui ont fortement baissé. Donc comme on l'a dit l'année dernière, on a renégocié un emprunt effectivement. Donc il y avait eu un impact en 2018. Et là, on est en 2019 où on baisse en termes de frais financiers. Rembourse plus de capital, moins de frais financiers. Les frais généraux qui sont maintenus, subventions, contributions maintenues, la masse salariale qui est maintenue avec toujours les petites variations qu'on peut avoir tous les ans en cas de départ, de remplacement, des petites choses comme ça. Rien de spécifique. Sur les impôts, les graphes sur les impôts, donc on a une évolution de 2% des impôts locaux. Je vous rappelle qu'on avait baissé les impôts sur la taxe d'habitation les deux dernières années. Et l'État est haut, toujours la baisse de la DGF, on va la voir un peu plus en détail tout à l'heure, depuis d'ailleurs en plus 2010, parce que vous allez voir là, il y a une vraie chute importante. Sur les produits qu'on a parlé du casino, droit de mutation, produits des services et la taxe de séjour, vous les avez là, donc on voit bien que les droits de mutation ont grimpé, puisque c'est la meilleure année qui existe dans la commune de Carnac. Sur des produits des services, c'est aussi une année qui est intéressante. Les casinos, donc on a repris une courbe ascendante qui va être peut-être un peu plus difficile à maintenir cette année.
Carrément. À mon avis, elle va être descendante.
Mais avec un bon espoir de la retrouver pour 2021 et 2022, avec toujours un objectif de retrouver à fin du mandat, de rapprocher 1 million d'euros. Et la taxe de séjour. Donc la différence de la taxe de séjour, les 566-669, je vous rappelle, il y a tout ce qui était Airbnb, Abritel et ainsi de suite, où qu'on a récupéré la taxe de séjour, qui a fait faire un bond, effectivement, l'année dernière. Le petit tableau, hein, c'est les frais généraux en baisse de 1,12. Alors, vous avez les frais de personnel, vous avez le produit net et le produit brut. Hein, la différence, c'est que le remboursement des assurances, je vous rappelle que l'État, les collectivités s'auto-assurent au niveau du personnel. Et donc, derrière, on souscrit une assurance pour ce qui est maladie, ainsi de suite. Donc, on a des remboursements, ce qui fait la différence entre le produit net et le produit brut. Dotations d'amortissement. Donc, en forte progression due tout simplement aux investissements des dernières années, les subventions, contributions, frais financiers, j'en ai parlé, l'exceptionnel, alors là, il n'y a pas de choses, c'est des restes moins de sinistres tout simplement qu'on peut avoir. La contribution au redressement de l'État, il n'y en a plus depuis l'année dernière déjà. Et vous retrouvez après effectivement les excédents. De l'autre côté, sur les recettes, les travaux en régie et l'amortissement de subventions, donc hein, ça dépend ce qu'on fait en travaux en régie, donc il y a une variation, produits des services, donc là une petite évolution, les impôts 0,56, donc là dans les impôts vous avez y compris les attributions de compensation moins le FNGIR qui est le fonds national de garantie entre les communes, ce qu'on appelle les riches et les communes pauvres, on en discutera un peu plus dans le DOP tout à l'heure, vous le verrez, les autres taxes. Le casino, donc l'évolution, les droits de mutation, la taxe de séjour, on en a parlé tout à l'heure. DGF et participation de l'État, donc un peu en diminution. Les loyers encaissés, l'exceptionnel qui peut varier sur des remboursements d'assurance, là, de sinistre. Et les produits financiers, derrière. Voilà les grandes masses. Sur les investissements, donc on a réalisé 4 349 en 2019. Hein. Donc les recettes, pardon, pas les investissements, les recettes d'investissement, avec la principale recette qui est l'affectation réelle de l'excédent de fonctionnement 2019, les subventions, les amortissements, taxes d'aménagement, le FCTVA, que vous avez pour 498 000 euros, donc qui va continuer, lui, à évoluer positivement, puisque plus on investit, on récupère la TVA payée sur investissement avec une année de décalage. Donc voilà un petit peu, puis les opérations de cession qui peuvent évoluer en fonction de ce qui peut arriver, qui en avait un peu plus en 2018 par rapport à 2019. Un autre petit crowbar qui vous donne les comparatifs un petit peu des recettes. Hein. En 2018, je vous rappelle qu'il y avait eu un nouvel emprunt et une plus-value sur Bouygues, qui avait fait la différence. La capacité d'investissement, donc qui est les dépenses, on va avoir la CAF, je suis allé trop loin, ou dépenses d'investissement. C'est moi qui suis allé trop vite, pour 8 237 000 euros. Donc vous avez une grosse part que vous retrouvez sur le morceau de camembert qui est en bas, qui est la plus importante, qui est un voirie sentier sécurité, même si la couleur par rapport à la légende n'est pas exactement la même, mais vous avez le petit carré. Donc c'est tous les APCP qui sont en cours. Et vous avez en rouge le remboursement de capital derrière. Les comparatifs des dépenses d'investissement depuis 2012, donc bien sûr avec un graphe qui progresse énormément depuis 2018 avec les APCP qu'on retrouvera en grande partie aussi sur 2020. La capacité d'investissement pour 4 932 000, donc l'excédent de fonctionnement qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ça que j'ai dû zapper, je crois bien que c'était une bêtise. Les amortissements, je rappelle, la FCTVA, ainsi de suite, que vous retrouvez à ce niveau-là. On va passer maintenant à la capacité d'autofinancement. Et le graphe, il est un peu bizarre, là. Hein? Alors, il vous manque un petit chiffre hein, qui est de 2 667 en excédent et de 889 en dotation d'amortissement qui fait 3 556. Vous voyez l'évolution derrière, les amortissements qui augmentent et effectivement l'excédent qui a une, peut varier d'une année sur l'autre mais qui est toujours en progression. L'excédent derrière aussi. Hop, voilà, l'excédent global de clôture à fin 2019 avec le report de N-1. Donc la différence entre les années 2016, 2017, 2018 par rapport à 2019, c'est tout simplement les APCP qui ont été en cours. Donc on a investi plus qu'on avait de recettes parce que c'est ce qui était prévu et c'est pour ça qu'on a fait des APCP. La dette à fin 2019, donc 32,44, M. Boitoura vous en a parlé tout à l'heure, un petit peu par rapport aux recettes réelles. Donc vous avez effectivement ce graphe-là. le suivant qui vous donne le nombre d'années. La CAF par rapport à la dette, 4 369 000 euros de dette pour 3 556 000 de CAF. Donc, ça correspond à une année 23. Donc, c'est vrai qu'on est en dessous des strates, hein, puisque on considère qu'on est en moitié en dépôt de bilan à partir de 14 années, c'est ça?
Donc, non, on a de la marge. Jusqu'à 6, l'endettement, la capacité de désendettement est correcte. Donc,
oui, j'ai encore des chiffres qui sont beaucoup plus larges que ça. La dette par habitant, vous en avez parlé tout à l'heure, donc par habitant DGF à 420 euros pour une strate qui est à 1025. L'analyse avec les ratios, vous en avez parlé beaucoup tout à l'heure, donc on va retrouver hein, la dette sur recette réelle de fonctionnement. On est à 31,85, pour être inférieur à 80% en référence. La dette CAF sur la, donc 1,23, on l'a vu, moins de 8 ans. Revenez à ça, c'est ce que j'avais comme tableau. Hein. J'ai repris, voilà, ce qu'on a retrouvé aussi d'ailleurs dans les informations pour faire le rob et le dob. Les annuités de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement, 5,94, donc inférieur à 20%. La rigidité des charges de structure, c'est les frais de personnel, plus les parts obligatoires, plus les frais financiers sur les recettes réelles, pour déchiffrer un petit peu, hein, parce que c'est vrai que c'est pas simple, 30,46, donc inférieur à 50. Les charges de personnel sur les recettes réelles de fonctionnement, donc 3 765 sur 13 718, 27,45% inférieur à 50. Après, on a regardé sur un petit peu des moyennes de la strate sur la base des communes touristiques. Donc on a des charges de personnel sur les charges réelles de fonctionnement. On est à 38% pour une moyenne qui est à 55,20. On a un taux de taxe d'habitation qui est à 10,10 pour 16,69. Un taux de taxe foncière bâtie de 14,89 pour 19,39 et un taux de taxe foncière non bâtie de 21,13 pour 42,06. Voilà un petit peu donc les chiffres clés, donc continuité de la bonne gestion des finances de la commune en augmentation des investissements, excédent global de clôture 3,363 millions, 2,668 millions rien que pour l'exercice, si on prend la photographie de l'exercice, donc on a plus 413 000 euros, les amortissements 889 à plus 125 et la dette qui a baissé de 626 000 euros qui correspond seulement à une année 23 de CAF annuel.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte administratif avant que je ne quitte la salle? Je quitte la salle. Je laisse la parole à
Monsieur Lejean. Donc nous allons passer, on va attendre que Monsieur le maire soit quitté la salle. Nous allons donc passer au vote du compte administratif, qui est en tout point identique avec le compte de gestion. Monsieur le trésorier, vous êtes d'accord?
Oui, je confirme.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur le maire, il peut revenir? On va passer au budget annexe du musée, avant le DOB, Philippe. Donc, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, M. Boitoura, donc vous avez le détail, un petit graphe qui va vous reprendre le détail un petit peu sur les années de 2013, sur les dépenses, les recettes et la subvention d'équilibre. Donc, je vous rappelle, le musée est un budget annexe, donc c'est une subvention d'équilibre. Donc, 564 000 euros de dépenses. 321 000 euros de recettes, une subvention d'équilibre de 243 000 euros. On a réussi à inverser la courbe rose avec la courbe bleue, claire. Il faut que ça continue. Je ne suis pas sûr que pour 2020, on va pouvoir le faire. Ça va être un peu plus compliqué. Mais on était dans une tendance où, effectivement, il faut qu'on continue à améliorer nos recettes. Donc, ils sont essentiellement liés soit à des subventions, surtout à des entrées, pour limiter la subvention d'équilibre. Voilà. Et maîtriser, bien sûr, nos dépenses. Dans les dépenses, vous avez deux grandes lignes, hein, les salaires, 410 000 euros. On voit que les salaires sont quand même maîtrisés depuis un certain nombre d'années. La variation, c'est tout simplement l'évaluation qu'il y a des postes et les frais généraux qui sont quasiment stables depuis plusieurs années. L'investissement, les recettes et les dépenses. Donc là, effectivement, on voit depuis 3 années, 24 années qu'on a un peu plus de dépenses que de recettes, ce qui explique le déficit au niveau du budget investissement. derrière, qui sont surtout des rénovations, des recollements, différentes choses pour que notre musée soit toujours attractif, tout simplement. Et donc, en 2020, effectivement, sera épongé les 61 000 de déficit au niveau du budget investissement. Monsieur le maire, je vais être obligé de quitter la séance.
Je repars.
Ah oui, tu repars. Donc, on va passer au vote du budget annexe, budget du musée. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir.
Parfait, merci à tous. On passe maintenant donc au plat de résistance de ce conseil municipal, à savoir le débat d'orientation budgétaire, hein, donc que nous, qui est toujours évidemment assez important au début de mandat, parce qu'il place la perspective budgétaire du mandat, et donc nous l'avons voulu assez complet, comme d'habitude, j'allais dire, comme tous les ans, puisqu'on reprend la même présentation quasiment, monsieur Lejean.
Pas tout à fait cette année.
Il y a des innovations en 2020
Oui, il est un peu moins complet, hein. Déjà, les élections ont été un peu perturbées, donc le travail aussi. Le Covid a amené effectivement beaucoup de questions, hein, comme l'expliquait monsieur Boitoura tout à l'heure. Donc on va retrouver dedans un petit peu dans le débat d'orientation budgétaire. Et prendre le temps surtout de l'année 2020 pour construire effectivement notre budget et notre programme pour les années futures.
Alors, avant qu'on passe au débat d'orientation budgétaire, ne vous aura pas échappé effectivement que des communes balnéaires, touristiques, avec des recettes, je dirais, commerciales un peu plus importantes que des communes qui n'ont pas la chance d'avoir ces ressources, sont évidemment vont être très impactées par cette crise du Covid. Hein. Vous imaginez bien. Monsieur Lejean était un petit peu optimiste quand il parlait du casino tout à l'heure. Quand vous avez un casino qui est fermé quasiment 4 mois, c'est clair que les recettes vont être beaucoup moins importantes. Les droits de mutation, je ne sais pas. Il paraît, Monsieur Chapelle pourra nous en dire un mot, mais que l'immobilier est plutôt à la hausse et que beaucoup de gens veulent une maison au bord de la mer avec un jardin en cas de deuxième vague. Donc ça, les droits de mutation, on verra bien. Mais évidemment, la taxe de séjour, c'est la grande question pour cet été. Est-ce que nous aurons autant de touristes sur la station que d'habitude. On va perdre la clientèle étrangère, c'est clair, et notamment la britannique, et on l'a déjà constaté au cours du mois de juin. Donc ça, ce sera des recettes en moins. Je pense que heureusement, beaucoup de Français passeront leurs vacances en France. On le constate d'ailleurs dans les réservations depuis quelques jours. Je pense qu'on aura sûrement une très belle fréquentation de la clientèle française, mais beaucoup d'incertitudes sur les recettes de la commune. Et effectivement, en général, les années post-élection sont des années plutôt tranquilles où les équipes rentrent en fonction et commencent à réfléchir à leurs projets. Cette année, ce sera peut-être encore plus vrai que les autres années. Monsieur Lejean, je vous laisse la parole.
Merci, monsieur le maire. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans le compte administratif et le compte de gestion, donc la gestion de la commune est plutôt bien tenue et on a effectivement des marges de manœuvre. Ceci dit, effectivement, l'année 2020 se présente un petit peu complètement différemment. Sur ce que vient d'expliquer monsieur le maire, hein, ou monsieur Boitoura, que ce soit la taxe de séjour, le casino, les droits de mutation, vous verrez qu'on les a quand même prévus en baisse, et effectivement aussi surprenant, cela peut-être que ce soit sur notre commune ou d'autres communes du littoral breton. Pour l'instant, on ne ressent pas trop. Maintenant, il faut voir, il reste encore 6 mois, donc c'est quand même un peu tôt pour pouvoir dire comment se terminera l'année. Derrière, nous avons eu effectivement des coûts supplémentaires, hein, puisque derrière, il a fallu faire face tout simplement à la crise sanitaire et donc acheter différents produits, masques et ainsi de suite, hein, qui ne vous a pas échappé. Donc des coûts supplémentaires derrière. Donc on va essayer de préserver quand même notre capacité d'investissement et de continuer le développement de la commune. Donc je vous laisse un lien, vous l'avez eu, hein. Je vous rappelle, vous avez eu un ROP cette année, hein, qui était un rapport d'orientation budgétaire, qui vous explique un petit peu le DOB. Donc effectivement, la loi de finances pour 2020 traduit la volonté gouvernementale de poursuivre la politique de réduction de la dépense publique. Or, l'adaptation de la crise sanitaire mondiale va totalement remettre en cause les grandes lignes budgétaires initialement prévues. Je pense que tout le monde en a entendu parler dans les médias, je ne vais pas revenir dessus. Donc derrière nous, ça ne va pas nous échapper. Comme on vous l'a dit, c'est que notre commune va être peut-être un peu plus impactée, du moins les communes de notre type, Quiberon ou Carnac, qui ont effectivement des ressources qui sont liées à son attractivité avec la taxe de séjour, avec les droits de mutation ou avec le casino. Et là, effectivement, on risque de perdre des ressources importantes pour la commune, alors que, grosso modo, nos charges vont plutôt augmenter que baisser. Donc la ville poursuivra son développement selon la stratégie engagée depuis plusieurs années, à savoir le respect des fondamentaux. Je vous rappelle les fondamentaux que nous avions écrits en 2015. Donc on essaye de les maintenir et on les a toujours maintenus pour l'instant. Effectivement, l'année 2020 sera sans doute un peu plus compliquée, mais on reste optimiste pour les maintenir. Donc maintenir des charges de personnel maximum de 42% des charges de fonctionnement, un excédent de fonctionnement entre 1,5 million et 2 millions d'euros, maintenir une CAF entre 2 millions et 2,5 millions, ne pas dépasser un endettement de 10 millions, donc ça vous l'avez vu tout à l'heure, donc on a de la marge, maintenir une dette représentant au maximum 5 années de CAF et maintenir un investissement d'un minimum de 4 millions par an, ce qui sera réalisé aussi sur l'année 2020. Alors pour... Effectivement, la période 2020-2021, parce qu'on va s'inscrire sur deux années, 2020 et 2021. 2020, on est dans la crise sanitaire. On sait très bien l'impact qui va être direct. Et 2021, ben, je considère qu'il va falloir aussi envisager de remettre du carburant dans le moteur si on veut que l'économie redémarre, y compris la nôtre, y compris avec nos acteurs économiques. Donc c'est pour ça qu'on tape sur deux années. Il faudra effectivement retrouver une dynamique en 2021 pour retrouver nos chiffres en 2022. Donc pour autant la commune de Carnac, comme pour les années passées, poursuivra son ajustement des dépenses de fonctionnement tout en préservant et développant l'accompagnement des Carnacois dans leur vie quotidienne en leur proposant des services de qualité. Les orientations budgétaires 2020 déclinées ci-après s'inscrivent dans ce contexte financier. Donc dans la continuité des précédents budgets, je vous rappelle que la loi de finances 2020 entérine la suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales à l'horizon de 2023. Donc avec une règle un peu complexe à ce niveau-là, hein, même si ce sera que sur les résidences principales, et comme vous l'a dit tout à l'heure M. Boitoura, Carnac a beaucoup de résidences secondaires, donc l'impact sera effectivement un peu moins important pour nous. Et donc il en résulte une refonte de financement des collectivités territoriales. Donc après avoir été allégé de 30% en 2018, de 65% en 2019, la taxe d'habitation sera décidément supprimée en 2020 pour 80% des foyers fiscaux sous condition de ressources. Quand on parle des foyers fiscaux, on parle bien toujours de résidence principale. Contrairement aux années précédentes, le dégrèvement est adapté pour que les foyers concernés ne s'acquittent plus d'aucune cotisation de taxe d'habitation, même si les collectivités ont augmenté leur taux d'imposition entre 2017 et 2018. L'État a pris comme référence effectivement ces dates-là pour éviter tout ce qui pourrait être des dérapages. Afin de limiter les hausses de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages restants, les taux d'imposition taxe d'habitation votés par les collectivités sont gelés à leur niveau de 2019. À partir de 2021, les 20% de foyers encore imposables bénéficieront à leur tour d'une exonération progressive, 30% en 2021, 65% en 2022 et la suppression totale pour les résidences principales à l'horizon de 2023. En revanche, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants seront maintenus. La suppression de la TH représente pour les communes un manque à gagner de l'ordre de 17 milliards d'euros. Aussi, dès 2021, la part départementale de la taxe foncière, donc quand vous recevez votre taxe foncière, vous avez la part communale, la part pour l'intercommunalité, merci, et la part du département. Et donc la part départementale va revenir effectivement aux communes. Et il y a un grand calcul savant qui a été fait par un énarque qui a au moins un bac plus 20, au moins, hein. Aussi.
On va dire un coefficient.
Si, si. Un coefficient, donc vous avez un zéro avec 9 chiffres après la virgule. Mais j'ai pas trouvé ma calculatrice, ça fait pas 9 chiffres. Monsieur Boitoura, vous en avez chez vous ? Moi, ça fait pas 9 chiffres après la virgule. J'ai du mal à calculer. Bref, voilà, ça c'était mon petit côté un petit peu taquin au niveau de Bercy. Et donc il y aura effectivement un coefficient qui sera fait pour que les communes ne perdent rien du tout. Donc, on va rentrer dans... Si, si, on peut y aller. Donc la dotation globale de fonctionnement DGF, donc on l'a vu tout à l'heure, après 10 années de baisse consécutive, devrait se situer pour Carnac aux alentours de 805 000 euros. Pour autant, des variations auront lieu pour certaines collectivités, car malgré le gel de l'enveloppe DGF et la fin de la contribution au redressement des finances publiques, l'écrêtement persiste pour 2020. Donc je vous ai fait un petit rappel, hein, Carnac a vu sa DGF diminuer depuis 2010, et notamment en raison principalement de la contribution au redressement des finances publiques de l'État, mise en place en 2014 et supprimée en 2018. Vous allez voir les graphes tout à l'heure, et vous allez voir, voilà, les montants. Donc en 2010, nous avions 1 976 000 euros de DGF, et en 2020, nous allons avoir 805 000.
Donc, on peut constater qu'au passage, la taxe pour le désendettement de l'État beaucoup servi au désendettement de l'État.
Tout à fait. Ça devait être un autre énarque, mais ce n'est pas le même que pour le coefficient. On peut continuer. Donc les prévisions pour 2020 s'établissent à hauteur de 805 000 euros, je vous ai dit tout à l'heure, soit une baisse environ de 3,01% par rapport à 2019, avec un écrêtement se situant environ aux alentours de 25 000 euros. La ville de Carnac avait déjà perdu 32 000 euros sur la dotation globale de fonctionnement de l'État en 2019 par rapport à 2018. Pour rappel, la DGF attribuée à Carnac en 2010, ce que je vous dis tout à l'heure, s'élevait à 1 975 859 euros. Depuis 2010, la recette nette de la DGF a été divisée par 2,45 en 10 années, soit une baisse de plus de 59%. Et en cumulé, la baisse entre 2010 et 2020 s'établit à 6 376 000 euros que la commune a, entre guillemets, perdu sur 10 années. De 2015 à 2017, la commune a maintenu les taux de fiscalité directe pour compenser en partie la baisse de la DGF et la participation des endettements de l'État, tout en conservant son abattement pour les résidences principales, voté par le conseil municipal en 2014 à 15% au lieu de 7,5% précédemment. Dans le cadre de la réforme Macron et pour maintenir une égalité, une baisse de la taxe d'habitation a été votée en 2018 par le conseil municipal. Donc on vous rappelle les taux de 2017, 2018, 2019. On vous propose les taux pour 2020 sur la taxe d'habitation et sur la taxe du foncier non bâti, puisqu'ils sont en corrélation. Donc on a un maintien de taux de la taxe foncière qui, elle, reste à 14,89%. L'effort fiscal pour 2019, l'effort fiscal des Carnacois est à 0,932, en dessous de l'effort demandé aux contribuables de la même strate, qui est de 1,209. Voilà pour la fiscalité. Ce que rapporte la fiscalité... on a une fiscalité entre la taxe d'habitation, la taxe foncier bâtie, la taxe foncier non bâtie, qui elle représente 34 000 euros, pour un montant de 500 millions. Oula, oui. Si, c'est bon, ça va être mieux là. Demain, ça va être bon. 5 334 000 euros, mais il faut déduire le fonds de solidarité, le FNGIR que je vous ai parlé tout à l'heure, pour la hauteur de 1 902 679 euros.
C'est peut-être un petit arrêt là-dessus, parce que je pense que beaucoup de conseillers municipaux découvrent ce FNGIR, qui est une très bonne chose. En fait, c'est un mécanisme de solidarité entre les communes plutôt riches et les communes plutôt pauvres. Mais voilà, ça représente quand même une somme très importante pour Carnac, hein, et donc n'hésitez pas à signifier, y compris aux communes alentours, que voilà, les communes, y compris, nous sommes perçus comme une commune riche avant d'être une commune bien gérée, même si nous sommes plutôt une commune bien gérée qu'une commune riche. Mais en tout cas, il y a ce fonds de solidarité qui existe et qui est donc versé. Et c'est pas à l'épaisseur du trait, hein, c'est quand même une somme très conséquente qui est donc versée au profit des communes qui sont un peu plus dans le besoin. C'est très bien, mais c'est juste une façon de le signaler, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de solidarité qui sont un petit peu invisibles, mais qui existent.
Donc là, vous allez voir les projections des recettes et des dépenses pour 2020. Donc pour atténuer l'impact de la crise sanitaire sur les recettes, les collectivités, le gouvernement proposera au Parlement lors de la prochaine loi de finances rectificative un mécanisme de compensation des recettes fiscales et domaniales. Les recettes fiscales et domaniales des communes seront donc garanties à hauteur de la moyenne des années 2019, 2018, 2017. Ce mécanisme n'a jamais été employé, a été évalué à un montant d'environ 750 millions d'euros, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, M. Boitourin, et devrait bénéficier à 12 ou 14 000 communes en France. Donc le versement sera effectué de manière automatique, sans aucune démarche à effectuer. Ça, c'est pas gagné, loin de là, puisque c'est pas ce qu'on a reçu pour certaines données. Mais enfin, bon, on verra. Dès cet été, chaque maire sera informé du plancher en deçà duquel ses ressources fiscales et domaniales ne pourront pas tomber. Entre autres, pour la taxe de séjour, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, il y a une perte. Alors, si c'est une décision de la commune, effectivement, c'est pas compensé. Si c'est une décision liée au Covid et liée aux décisions de l'État, elle peut être compensée. On va voir à quelle hauteur. Donc, on est pour l'instant en train de travailler sur les dossiers pour demander, pour prévoir de demander des compensations. Par contre, je ne l'ai pas du tout intégré dans le budget pour 2020. Donc, si on a quelque chose, ce sera du plus.
Mais normalement, la compte est prévue en 2020.
On reconnaît bien ton côté très sage.
Voilà. Donc, outre la DGF et la fiscalité directe liée aux taxes communales, impôts dits locaux, Carnac dispose d'autres sources de recettes, dont la taxe sur la consommation finale d'électricité, la TCFE. Vous avez sur votre facture que vous recevez, vous verrez, il y a une petite cote-part. Hein, donc, bah, elle ne bouge pas énormément. Hein, on est, vous voyez, 160, 158, 157, 155 qu'on envisage pour 2020. Les produits des services. Donc en progression sur l'année 2019 grâce à une politique communale d'attractivité envers ses visiteurs et de développement des services envers sa population, l'ensemble de ces produits a représenté plus d'un million d'euros de recettes. Pour l'avenir, il faudra s'attendre, et là vous allez voir les graphes tout à l'heure, hein, à une modification des bases de comparaison suite à la suppression de la facturation, entre autres du restaurant scolaire, par la mairie, puisque je vous rappelle qu'avant on avait un restaurant scolaire communal qui prenait en charge l'école des Corrigans, l'école Saint-Michel et le collège Saint-Michel. Or, aujourd'hui, pour 2020, on n'aura plus la prise en charge de la facturation que l'école des Corrigans. Et plus les effets importants liés à la crise sanitaire. Donc, voilà les petits graphes qui vous montrent les chutes. Donc, vous avez la TCFE, l'électricité, qui ne bouge pas trop. Vous avez les produits et les services publics et les produits des services économiques qui, effectivement, sont une chute. On va le voir en détail, hein, mais on l'a déjà passé en conseil municipal, les décisions qui ont été prises pour le soutien économique de nos acteurs économiques sur notre territoire par la commune. Donc on retrouve les chiffres à l'intérieur de ce graphe. Donc vous avez le détail qui est un petit peu ici, hein, vous avez les décisions communales, donc les eurodateurs, l'occupation du domaine public pour nos acteurs économiques, les autorisations de voirie pour nos artisans, ou pour tout ce qui est le petit train touristique et les différents acteurs économiques touristiques, les droits de place de marché. Je vous rappelle que le marché hebdomadaire à Carnac a été un moment fermé au début du cluster, début mars, par le préfet, qu'on a mis en place un mode opératoire de fonctionnement pour pouvoir avoir le droit de le réouvrir, dont je remercie devant tout le monde l'ensemble des bénévoles qui sont venus soutenir et m'aider à gérer le marché pendant plusieurs semaines pour pouvoir le réouvrir et que d'ailleurs on a été cité en référence au niveau de la préfecture à ce niveau-là. La Carnavette Carnoz, je vous rappelle que l'année dernière on avait mis en place un système de partenariat avec des professionnels sur la Carnavette Carnoz qu'on ne souhaite pas solliciter cette année du fait de leurs problèmes économiques. L'occupation de la base nautique, où là, nous avons nos acteurs nautiques. Les loyers qui sont soit les DSP ou soit différents bâtiments occupés par des acteurs nautiques ou économiques. La location de salles, puisqu'elle a été tout simplement, les salles ont été fermées et arrêtées. Et Skedanos, qu'on avait mis en place une billetterie à partir de depuis l'année dernière, et que Skedanos, cette année, n'a pas lieu du fait du Covid. Donc, ce qui donne un total global de 410 000 euros. Plus derrière, si vous avez lu la presse, on a aussi fait un effort avec l'Office du tourisme par rapport à ses adhérents, donc pour les cotisations et pour les publicités qui ont été gratuites cette année. La taxe additionnelle aux droits de mutation, donc elle est en augmentation, notamment grâce à l'attractivité de la commune et au regain de l'investissement immobilier. De 863,64 000 euros en 2017, la taxe a progressé à 922 000 euros en 2018 pour atteindre 1 129 000 euros en 2019. Je fais des arrondis, c'est plus simple. L'année 2019 a été la meilleure année depuis l'instauration de cette taxe. L'année 2020 risque d'être impactée par la crise sanitaire. Ça, c'est effectivement ce qu'on avait écrit au départ. Au jour d'aujourd'hui, on ne le ressent pas encore. Est-ce qu'on va le ressentir? C'est vrai que les indicateurs sont plutôt positifs, Paul. Et bon, on peut même sur les autres communes bretonnes, c'est la même chose. J'ai échangé avec différents maires de Sensation Bretagne et ils ont effectivement, on retrouve pas d'impact sur, pour l'instant, sur les droits de mutation. Alors, la taxe de séjour, elle, ben là, c'est quand même plus net, hein, puisque effectivement, tout ce qui est, je vous rappelle que notre taxe de séjour, à peu près 80% de la taxe de séjour est financée ou est payée, 100% est payée par nos visiteurs, mais surtout par nos visiteurs qui prennent un hébergement, donc en hôtellerie ou en hôtellerie de plein air. Or, nous avons des campings qui vont réouvrir que ce week-end, donc nos gros campings, donc ça veut dire surtout le deuxième trimestre 2020, pas du tout d'activité économique, donc pas du tout de visiteurs, pas du tout de taxes de séjour. Donc là, on a retravaillé aussi, on va le voir dans le graphe un peu plus loin, on a retravaillé sur différents chiffres en reprenant un petit peu les données qu'on avait pour peaufiner ce chiffre-là. Le casino, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait généré 688 000 euros de recettes pour la commune en 2018, progressé en 2019 pour atteindre 784. Donc, aux investissements qui ont été faits par le nouvel opérateur pour retrouver une croissance. Là, effectivement, pour 2020, on s'est retrouvé mars, avril, mai, où le casino a été fermé. Les chiffres de juin progressent tranquillement. Hein, je vous rappelle que les jeux de table ne sont pas encore réouverts, uniquement que les machines à sous, pour l'instant. Ils ne devraient pas tarder, d'ailleurs, à réouvrir pour début juillet, d'après si mes données sont bonnes. Et on espère retrouver sur juillet, août, au moins une activité. Par contre, là, rattraper la perte, là, c'est comme la taxe de séjour, ça ne sera pas possible. Et celle-là, je ne pense pas qu'elle soit compensée par l'État. Monsieur Boitoura, peut-être,
ah, si,
peut-être.
Si, si, les ressources des casinos aussi.
Oh là.
Ah.
Oh là.
Champomy.
Laurent et Philippe, il faudra faire le dossier casino aussi, hein, il n'y aura pas que la taxe de séjour. Donc voilà un petit peu les chiffres qu'on a extrapolés. Donc sur effectivement les droits de mutation à 750 000 euros, on peut peut-être considérer qu'on est pessimiste. Sur le casino, on est peut-être là un petit peu optimiste. Et sur la taxe de séjour, on était parti sur une base de 300. Après recalcul avec toujours le décalage qu'il y a d'une année sur l'autre quand même, on devrait être quand même, si les chiffres se maintiennent et ce qu'on a aujourd'hui comme données, on devrait approcher les 400 000 euros. Donc on voudrait être un petit peu mieux. Voilà, en ayant retraité. Donc on est un petit peu, pour l'instant, plutôt pessimiste à ce niveau-là. Donc on a effectivement, le Covid a amené des surcoûts à consommation de différents produits, hein, gel hydroalcoolique, les masques, les protections, des divers. Alors dans les divers, vous avez toutes les installations qui ont été faites pour recevoir le public, les plexiglas, ainsi de suite. Donc on a estimé à peu près notre dépense à la hauteur de 100 000 euros TTC. Donc là, pareil, qui devrait aussi bénéficier d'une aide de l'État, avec une partie, alors qui est un peu compliquée, parce qu'on a aussi une aide qui va venir de la communauté de communes. Il y a une prise en charge, donc bon, on va bien voir ce que va donner l'État et ce qui restera à charge pour la commune. Charges de personnel. Donc les dépenses de personnel sont depuis plusieurs années maîtrisées tant en termes d'effectifs qu'en termes de coûts. Il convient de rappeler que la part des dépenses de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement de Carnac hors budget annexe représente 38% en 2019, 39% avec le musée. C'est en dessous de la moyenne du niveau national, 55%. Et on vous a mis quelques petites sources de communes aux alentours, même si c'est à prendre avec précaution, puisqu'une commune comme Vannes ou comme Auray peut avoir des taux importants qui sont aussi dus parce qu'il y a beaucoup de travaux en régie, dus qu'ils ont beaucoup d'écoles, ce qui explique hein, derrière l'entretien à ce niveau-là avec des travaux en régie et donc qui font grimper effectivement le taux. Mais ceci dit, même Auray est quand même à un niveau important. Pour autant, l'évolution des taux de cotisation, de revalorisation automatique due aux avancements de carrière, les doublons de postes liés aux arrêts et anticipation de départ en retraite et surtout la crise sanitaire depuis le mois de mars font que nos charges de personnel risquent d'augmenter sensiblement. Nettoyage des écoles, puisqu'on s'est retrouvé quand même à participer sur tous les bâtiments communaux où effectivement avoir des surcoûts pour pouvoir les réouvrir derrière. Et plus de personnel pour pouvoir accueillir, que ce soit au centre de loisirs, nos enfants ou dans les écoles, donc qui ont amené un surcoût. le nombre d'agents en équivalent temps plein ETP est stable et le nombre de postes budgétaires ouverts a été mis en correspondance avec la réalité du terrain et du nombre de postes pourvus. Plusieurs fois, au niveau des différents conseils, vous avez vu qu'on a supprimé effectivement des postes qui n'étaient pas pourvus. Donc vous avez les graphes, c'est pour ça que vous avez un écart sur 2012, 2013, 2014, où vous aviez des postes qui étaient non pourvus. La différence est importante et qu'on est revenu à quelque chose de plus réel. En termes financiers, les charges de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement représentent 38% en 2019 du compte administratif, ce qui est relativement bas par rapport à la moyenne nationale, je la répète encore une fois. Les prévisions de dépenses de personnel, chapitre 12, pour 2020 sont en progression d'environ 154 700 euros. Pour mémoire, la progression prévue en 2019 était de 250 000 euros. Alors, vous avez des chiffres qui sont des prévisionnels. Vous allez me dire, il y a une différence importante par rapport à la réalité. C'est pour ça qu'on vous a mis en comparaison le budget prévisionnel de 2019 et le BP de 2020 pour montrer la progression. Effectivement, on peut considérer que des fois on est un peu pessimiste, mais c'est très compliqué à anticiper la masse salariale et on préfère ouvrir un peu plus large pour pas être embêté en cours d'année s'il arrive un événement exceptionnel. Donc cette progression s'explique par plusieurs facteurs, des dépenses liées à la crise sanitaire, je vous en ai parlé, l'évolution des carrières, les doublons de postes liés à plusieurs congés maternité. Il faut savoir que vous allez voir, on a une pyramide d'âge tout à l'heure qu'on va vous montrer, où nous avons toute une partie de notre personnel, de nos agents qui arrivent effectivement, ce qui se rapproche de plus en plus de la retraite et donc qui amènent à faire des doublons. Donc il y en a trois de congés maternité, parce qu'on a quand même des congés maternité, le recrutement d'un nouvel agent de police municipale afin de remplacer un agent en arrêt de maladie et de permettre d'assumer le service de police municipale 7 sur 7, 24 heures sur 24 l'été, donc ça c'est Arnaud qui est arrivé, et le recrutement d'un emploi de cabinet qu'on a discuté lors du dernier conseil municipal. Une provision pour d'éventuels renforts ponctuels et ruptures conventionnelles. Les principales dépenses de la commune, les frais généraux, donc ceux-là, ils sont relativement maîtrisés, hormis ce qui vont être les frais qui vont être liés à la crise sanitaire, les subventions, contributions, il convient de maîtriser une dynamique associative et éducative, tout en gardant comme objectif une maîtrise des dépenses. La réussite de certaines manifestations auxquelles la commune a contribué depuis plusieurs années prouve notre volonté de maintenir cette dynamique, tout en favorisant l'attractivité de la commune. C'est vrai qu'il a été mis en place, on a parlé tout à l'heure de Skenanos, où on avait mis des manifestations en place, qui était au début, dans un premier temps, uniquement financé par des subventions et que petit à petit, on fait évoluer par des recettes propres. L'objectif étant que chaque manifestation, à terme, arrive à trouver un équilibre, ce qu'on pourrait appeler un équilibre budgétaire, c'est-à-dire un tiers sur des recettes propres de billetterie, un tiers sur des subventions et un tiers, si possible, par du mécénat, du partenariat. L'objectif, il est là. Je n'ai pas dit qu'on va arriver demain. Mais on y tend, c'est ce qui se fait avec Skenanos, c'est ce qui est en train de se faire avec Festival Terraqué et d'autres par la suite. Les frais financiers, nous constatons qu'il n'y a pas d'augmentation globale de la dette de la commune, malgré l'ensemble des bons résultats de la commune. Les récents événements sanitaires nous incitent à prévoir un emprunt tout en gardant notre capacité d'investissement. Cet emprunt de 1 600 000 euros correspond au montant du restaurant scolaire et donc envisagé. Pourquoi on envisage effectivement cet emprunt alors qu'on avait autofinancé les investissements? La crise sanitaire est passée par là. On sait qu'en 2021, nous aurons besoin d'avoir toute la capacité financière dont dispose la commune pour pouvoir relancer notre économie. Donc nous préférons anticiper et donc de flécher un emprunt sur le restaurant scolaire. Pourquoi sur le restaurant scolaire? Comme on l'a fait pour l'Office du tourisme, on le flèche sur des bâtiments. En cas de demain de transfert de compétences, on transfère aussi des charges. Les principales dépenses de la commune, donc vous avez vu, là vous avez derrière les coûts réels et les BP, donc pour la masse salariale, pour les frais généraux, pour les subventions-contributions. Alors subventions-contributions, vous avez bien sûr une baisse importante, je vous rappelle, elle est liée tout simplement à la problématique de la facturation de la cantine par rapport à l'école Saint-Michel et au collège Saint-Michel. Donc, moins de recettes, moins de dépenses aussi, parce qu'on n'est que boîte aux lettres. Et donc, les frais financiers qui continuent à baisser. La dette, l'investissement. Donc la commune de Carmin qui est très peu endettée, je ne vais pas vous le rappeler, on a expliqué déjà 4 ou 5 fois. Donc la structure de la dette est composée de 6 emprunts en cours, dont un d'environ 3 400 000 euros. Cet emprunt qui a été renégocié en 2018, qui était un emprunt dit de type E structuré, et qui a été renégocié à taux fixe. Donc voilà le profil de l'extinction de la dette en cours en kilo euros. Donc on a une dette qui s'éteint en 2025 à l'heure actuelle. Donc vous voyez depuis l'évolution 2017-2018, où vous avez une petite évolution, remboursement du capital, mais nous avons fait un nouvel emprunt pour les travaux de l'Office du tourisme. Et donc derrière, autrement, l'extinction de la dette qui vient, puisque comme vous pouvez voir, aujourd'hui la dette à fin 2019 est de 4 369, vous avez 3 4 sur un emprunt et les 600 000 qui étaient pour l'Office de tourisme. Donc c'est-à-dire que notre dette est surtout sur 2 emprunts. Les autres étant des petits emprunts qui arrivent bientôt à échéance et qui vont disparaître. D'où la baisse importante de la dette. Les investissements. Je vous rappelle, depuis maintenant plusieurs années, nous avons mis en place ce qu'on appelle des APCP, des autorisations de programme. Donc je vous en ai parlé d'une tout à l'heure, qui était l'APCP du boulevard de la Plage, donc qui sera modifiée par rapport aux avances qui ont été faites. Donc vous en avez 5. Et donc vous retrouvez ces APCP pour l'année 2019, avec les montants qui sont à reste à financer sur l'exercice de 2020. Donc nous avons la PCP numéro 1, Nord-Église des Hombourg-Plages pour 895 000 euros, le restaurant scolaire pour 386 000 euros. Alors même s'il était ouvert en fin d'année, il reste quand même derrière le décalage entre le financement, le paiement et ainsi de suite. Le rond-point du Nignol pour 522 000 euros, le boulevard de la Plage pour 2 075 000 euros et la salle multifonction dans l'étude pour 20 000 euros. Ce qui nous fait un total de 3 899 euros 90 cents, on va dire 3 900 000 euros pour arrondir. Ça, ce sont donc les APCP, ce qui a déjà été inscrit depuis plusieurs années. Et maintenant, vous avez effectivement ce qu'on prévoit pour 2020. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas aujourd'hui un tableau qui reprend l'ensemble du mandat, mais uniquement l'année 2020, tout simplement pour prendre le temps de fléchir les priorités au niveau des investissements sur l'ensemble du mandat. Donc bâtiment entretien pour 153 000 euros, les équipements sportifs pour 17 000 euros, chapelle église pour 168 000 euros, centre culturel Terraquet 40 000 euros, l'office du tourisme 115 000 euros, les terrains acquisition entretien parking 139 000 euros, l'école publique des Corrigans 21 000, jardin espace vert 6 000, cimetière 50 000, loisirs enfants jeunesse 15 000 euros et vous avez ce qu'on avait fait en 2019 à côté. On va aller un peu plus loin parce qu'il y en a un autre, mobilier matériel informatique pour 40 000 euros, véhicule matériel outillage pour 118 000 euros, urbain et matériel pour 45 000 euros, communication 2 000 euros, travaux divers de voirie 205 000, c'est souvent ce qu'on appelle, Gérard n'est pas là, mais ce qu'il appelle le MAC, donc c'est les travaux à bon de commande qui sont récurrents tous les ans, l'assainissement d'eau pluviale pour 45 000 euros, l'éclairage public pour 154 000 euros, travaux de raccordement pour 49 000 euros, circulation et santé 145 000, protection du littoral pour 94 000, l'AVAP, le PLU 87 000, donc dans le cadre d'une modification, la sécurité pour 46 000 euros, ce qui nous fait un total d'un 1 754 000 euros à rajouter à la somme des 3 millions 9 que nous avons vu tout à l'heure. Les investissements, pareil, on en a déjà discuté lors du dernier conseil municipal. Cette année, la commune va lancer une étude de revitalisation du centre-bourg. Cette dernière revitalisation du centre-bourg, je vous rappelle, c'est un peu plus large quand même, nettement plus large, parce que notre centre-bourg a quand même été revitalisé et rénové. C'est tout l'ensemble de liaisons entre, effectivement, la campagne, le bourg et la plage, et avec la possibilité... Je vais boire un coup, oui, par rapport au classement de l'UNESCO. Donc cette subvention, cette étude est pour 100 000 euros. On a un financement par le biais de la communauté de communes à la hauteur de 7 500 euros, du conseil régional à la hauteur de 42 500 euros et un autofinancement ou un reste à charge à la commune pour 50 000 euros. Tu ne vas pas me déconcentrer, Sylvie, quand même.
On a dit qu'on n'avait pas mis de pastis dans la bouteille.
Voilà. Donc ainsi, dans un contexte budgétaire contraint, une crise sanitaire impactant lourdement nos finances, il convient de noter une maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en ayant la volonté de poursuivre nos investissements et de favoriser au mieux la reprise à l'issue de la crise sanitaire actuelle. Donc stabilisation des dépenses de fonctionnement, maintien d'un fort niveau d'investissement, possibilité de recours en emprunt pour des opérations spécifiques, ce qu'on vous a parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu pour le DOM, un peu plus rapide que peut-être les années précédentes, plus simple. Vous l'avez vu, on l'a vu en commission finance, il n'y a pas eu spécialement de remarques.
Alors, c'est vrai. Passer au vote, qui a trouvé ça plus court que les années précédentes?
Pas de vote,
c'est pas sur le DOM, c'était pour ceux qui ont trouvé ça plus court.
Oui, j'ai bien compris, mais il faut un certain temps pour que ça remonte.
Plus sérieusement, est-ce qu'il y a des interventions, des débats, des questions sur cette présentation assez exhaustive?
Oui, juste une remarque sur les recettes. Je les trouve très très pessimistes. Vous l'avez dit vous-même, au niveau des droits de mutation, a priori, on ne devrait pas être si impacté que ça. Pour le casino, j'en conviens, effectivement, c'est le plus compliqué. Mais pourquoi vous avez des chiffres aussi pessimistes?
Alors, pour une raison très très simple, mais c'est un exercice qui est l'exercice de la sagesse. Quand on fait un exercice budgétaire, il faut toujours minimiser les recettes et maximiser les dépenses. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir des gros problèmes en cours de mandat quand vous avez justement, au contraire, sous-estimé les dépenses et surestimé les recettes. Donc c'est simplement un principe de prudence. On le fait globalement à peu près tout le temps parce que ça donne une souplesse dans la gestion de l'exercice. Donc le but, c'est d'avoir des bonnes nouvelles en cours de mandat et d'avoir des atterrissages qui soient un petit peu plus faciles à effectuer.
Je rajouterais en plus que ça, on a commencé à bâtir effectivement le BP, le compte administratif, le ROB, le DOB et le BP, il y a déjà plusieurs semaines en amont, puisque d'ailleurs vous les avez vus en commission finance. Donc le temps de sortir les documents, on a travaillé avec les éléments qu'on avait à l'époque, qui effectivement bougent. Hein. Chaque semaine, on a des nouvelles informations, donc qui bougent complètement. Est-ce que demain, on aura des discothèques qui vont être ouvertes ou pas? Voilà des problématiques. C'est un impact sur ma carnose. Comment je le fais? Comment je la gère? Et ça, on le gère. Aujourd'hui, on est des fois quasiment dans le journalier. C'est pas facile. C'est compliqué. Et donc, c'est vrai qu'on a été, entre autres, hein, c'est pour ça que j'ai bien parlé des droits de mutation, hein, pour bien évoquer, et Paul confirmer de notre côté, qu'effectivement, au moment qu'on l'a bâti, on l'a bâti sur 750, on pensait qu'on était optimiste. Après, petit à petit, on a eu de plus en plus d'éléments. Effectivement, c'est quand même surprenant, parce qu'on s'est dit, ah, est-ce qu'on ne va pas vivre ce qu'on a vécu en 2008-2010? Et quand vous regardez les graphes qu'il y avait avant, vous avez bien vu la chute. Donc, on était parti, effectivement, à ce niveau-là. Entre-temps, on a des informations qui sont contraires, qui sont d'ailleurs étonnantes. C'est pour ça que je reste quand même un petit peu pessimiste, puis je dis attention. Là, on a beaucoup de choses qui étaient dans les tuyaux début d'année, donc avant le Covid, qui se sont signées là, qui ont pris du retard pour les problématiques que vous connaissez tous, donc qui arrivent quand même parce que les gens s'étaient engagés. Est-ce qu'on va avoir la même chose sur les 6 prochains mois? Donc on reste, et il faut mieux avoir de bonnes surprises que de mauvaises.
Je terminerai en disant que si d'aventure on devait reconfiner et qu'il y avait une deuxième vague à l'automne, comme aujourd'hui certains le pensent, ces recettes sous-estimées viendraient, je dirais, encore plus faciliter l'exécution budgétaire. Monsieur Bucal?
Oui, monsieur le maire, merci. Je pense que c'est vraiment le choix de la prudence et tout à fait justifié. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais comme vous venez de le dire, moi je pense que cette crise, elle est très grave. La crise de 2008 n'est pas nécessairement la bonne comparaison. On a une crise qui est la plus grave depuis au moins la dernière guerre mondiale. Elle est et elle va être très dure, avec des conséquences très lourdes pour beaucoup de nos concitoyens, malheureusement, et aussi pour la commune. Donc je crois que c'est très prudent de le faire. Inversement, on a la chance, en tout cas au niveau de la commune, d'avoir, je dirais, une situation qui est positive pour au moins deux raisons. On a une longue, longue tradition multidécennale de rigueur dans la gestion de cette commune. Il y a eu des parenthèses parfois un peu plus originales, mais globalement, on a une longue tradition de rigueur de gestion. Et puis, ces dernières années, il y a eu une politique qui a été menée, qui a, on vient de le voir dans les chiffres donnés par M. le Trésorier et par M. Lejean, on a des marges de manœuvre très importantes. Et c'est vraiment dans une situation comme celle-là, d'une crise, hélas, historique, qu'on peut se féliciter d'avoir ces marges de manœuvre et qui vont nous permettre, quoi qu'il arrive, de pouvoir passer cette crise, de continuer à investir, de faire une politique d'aide aux commerçants et à d'autres de nos concitoyens, c'est ce qui a été évoqué par M. Lejean il y a quelques minutes, c'est quand même des centaines de milliers d'euros, donc ce n'est pas l'épaisseur de trait, c'est heureux. Donc c'est grâce à tout ça qu'on va pouvoir passer cette crise le moins mal possible. Mais être prudent et avoir tendance plutôt à être trop prudent, bah, souhaitons-le, hein, mais à l'inverse serait certainement regrettable en fin d'année.
D'autres remarques ?
Oui, concernant les investissements, j'ai remarqué que plusieurs catégories n'étaient pas présentes. Alors peut-être que tout n'est pas détaillé, mais sur les circulations douces et les sentiers, je vois que l'enveloppe, elle n'évolue que de 5 000 euros, c'est relativement peu, surtout qu'il y avait, il me semble, un programme majeur de réalisation de pistes cyclables. Alors est-ce qu'il faudra attendre après 2020 pour que ce programme se mette en route ?
Mais tout à fait. On l'a expliqué, c'est un peu une année blanche en termes d'investissement et de travaux cette année. D'abord, tout n'est pas détaillé. Effectivement, les grands travaux, ce sera probablement à partir de 2021. Aujourd'hui, on est dans une telle incertitude qu'il y a beaucoup de choses, même si dans chaque projet majeur, il y aura des composantes de circulation douce. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres collectivités qui investissent dans les circulations douces sur le territoire de la commune. Vous avez peut-être vu la récente réalisation d'ACTA sur la piste entre la Trinité et Carnac, et également bientôt entre Plouarnel et Carnac. Mais oui, il faudra attendre 2021 pour avoir, encore une fois, on l'a signalé, hein, le programme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a que des chiffres sur 2020, alors qu'on aurait pu, dans une autre circonstance, développer un DOB sur l'ensemble du mandat. Et c'est pour cette raison que ces chiffres sont assez modestes pour l'instant.
D'accord. Et également aussi pour les jardins, les espaces verts, le budget est divisé par 4. Alors est-ce que la politique de l'arbre et les créations de zones de biodiversité vont également attendre ? On a aussi la modernisation du yacht club qui n'apparaît pas, les salles de sport. Pour la salle socio-associative, la modernisation de la rénovation du musée, est-ce que tous ces projets devront attendre, puisque c'est quand même, il y a quand même un certain nombre de projets, donc 6 ans, c'est un délai relativement court.
Même réponse que précédemment, nous sommes dans une situation un petit peu particulière, avec beaucoup d'incertitudes budgétaires, une équipe qui vient d'arriver, donc avant de lancer des grands projets, il faut d'abord réfléchir.
Et peut-être également, on l'a vu, il y a un chiffre qui était de 2,9 millions d'investissements qui restent à payer. Donc on peut comprendre qu'on ne commence pas tout de suite ces travaux en 2020.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Bon, écoutez, il n'y a pas de vote à l'issue du débat d'orientation budgétaire. Donc je vous propose... Monsieur Lejean, le vote des taux d'imposition ?
Tout à fait. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, nous avons besoin de voter les taux d'imposition, taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Donc, je vous rappelle, puisque la taxe d'habitation a été gelée. Donc, on vous propose de ne pas changer les taux, de voter à la hauteur de 14,89 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la hauteur de 21,13%.
Des questions ? Madame Le Golban.
Moi, une remarque. C'est vrai que les deux années précédentes, la taxe d'habitation donc avait été baissée. C'était une volonté de votre part et vous souhaitiez pérenniser normalement cette action. Cette année, la taxe d'habitation étant gelée et appelée à disparaître, pourquoi ne pas reporter la baisse donc des taux initialement prévus pour 2020 sur la taxe foncière ?
Alors, pour l'instant, on l'a gelé, tout simplement qu'on attend de voir un petit peu clair dans la loi Macron, qu'elle soit un peu plus précise et qu'on ait effectivement toutes les données, puisque vous avez vu que ça s'étale un petit peu dans le temps, et qu'on a eu les dernières données qu'il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris de mesures, tout simplement pour voir l'impact de la loi Macron. Un coup, on n'a que les résidences principales, un coup, on a les résidences peut-être secondaires ou qui viendront par la suite. Donc on attendait de voir un peu plus clair pour pouvoir continuer cette démarche-là.
Donc la démarche, vous la continuerez, vous allez la reporter sur la taxe foncière, alors ?
On reportera sur les taxes. On les reportera effectivement sur les taxes, les autres taxes. Et donc comme c'est la taxe foncière, bâtie ou non bâtie.
Très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne décision. C'est ce qu'on avait suggéré déjà l'année dernière.
Mais c'est ce qu'on avait dit qu'on avait fait. Rappelez-vous qu'on s'était engagé à baisser les taxes sur 3 ans.
Oui, mais c'était la taxe
d'habitation. Oui, c'était on avait, la taxe mais à l'époque, je vous avais dit qu'on avait commencé par la taxe d'habitation suite à la décision de la future loi Macron pour une égalité de traitement pour tout le monde et qu'en fonction de que, comment serait effectivement ça, à la fin cette loi, on déciderait effectivement de la reporter sur une autre taxe. D'accord. Mais ça sera toujours dans notre politique.
Donc l'année prochaine, ça peut être à l'heure du jour.
Être à l'heure du jour. On verra les événements, puisque là, pour l'instant, je répète, hein, on est un peu des fois dans la spectative du jour le jour de savoir les données.
Merci.
Parfait. On peut passer au vote sur ce taux d'imposition 2020. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Le reste est pour, j'imagine. Je vous remercie. On passe rapidement, Monsieur Lejean, parce que je crois qu'on les a déjà détaillés. Voilà. Ils ont été adoptés à l'unanimité en commission finance. L'accompagnement des professionnels liés à la crise du Covid.
Voilà, vous avez le détail un petit peu de l'accompagnement qu'on a fait. Vous aviez le tableau tout à fait tout à l'heure dans le DOB. Donc c'est un petit peu le même tableau. Des décisions qui ont été prises. Et je vous rappelle toujours, en plus, la décision au niveau d'Office du Tourisme qui a été prise aussi pour les adhésions, pour un coût global aux environs de 600 000 euros d'aide, de soutien économique à nos professionnels.
Est-ce qu'il y a des questions sur Madame Petit
Morgane? Sur le sur la base S du Yacht Club, c'est de l'occupation annuelle, ça a changé?
Non, c'est une occupation de 6 mois.
Ok, d'accord, c'est pour savoir.
Que ce soit le PPP ou Nautique Sport.
Ok, donc ils démontent toujours pas leur cabane?
Le PPP démonte sa cabane, Nautique Sport ne démonte pas sa cabane.
D'accord. Et il y a une...
raison?
Oui.
Oui, il y a tout à fait une raison, c'est que ça a été voté en l'époque, en 2012 ou 2010, hein, je ne sais plus quelle année, pour un problème tout simplement que vous avez des structures démontables, à chaque fois que vous les démontez, c'est compliqué, ça vieillit beaucoup plus vite. Or, là, tout simplement, elle pouvait rester en place sans gêner personne, donc il a eu la possibilité de la laisser en place.
D'accord, donc on autorise un privé, mais pas le yacht club.
Ah, mais le yacht club, c'est lui qui le veut.
D'accord, ok.
Sur le stationnement payant, à l'époque, vous l'avez vendu aux commerçants et en réunion, comme quoi c'était pour éviter les voitures ventouses, pour faciliter la rotation des véhicules. Alors là, si vous l'annulez, ça va faire l'effet inverse par rapport à ce que vous nous avez expliqué à l'époque. Pourquoi vous ne le maintenez pas, tout simplement?
Effectivement, et on s'en rend compte tout de suite, on l'a fait à la demande des commerçants pour les soutenir, tout simplement. Ça a été une décision, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on ne va pas avoir l'effet inverse en supprimant le stationnement payant et d'avoir effectivement tous les véhicules bouchons? Aujourd'hui, on peut constater qu'il y en a. Donc on est en train de faire la guerre au niveau des commerçants et des employés des commerçants, puisque ce sont eux, puisque le but, c'est que surtout pour leur clientèle. Maintenant, on voit bien l'utilité d'avoir un stationnement payant. Parce qu'on s'est engagé, je répète, parce qu'on s'est engagé à leur demande. Maintenant, c'était pour une année, on en tirera les conclusions à la fin de la saison.
Ah bah, les conclusions, elles sont déjà tirées, ça ne sera valable qu'un an. Sauf deuxième vague, l'année prochaine, on remet le stationnement payant. Évidemment, je reste toujours sur cette conviction qu'effectivement, il faut un stationnement payant dans des endroits commerciaux pour assurer la rotation. Mais à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. On peut passer au vote. Est-ce qu'il... Madame Le Golvin.
Quand vous dites demande des commerçants, c'est-à-dire que vous avez fait un appel à tous les commerçants, ou ils sont venus vers vous, enfin, à travers l'Union des commerçants?
On a eu plusieurs réunions avec des commerçants, et donc on a estimé qu'il y avait suffisamment, je dirais, de voix qui s'étaient exprimées pour y répondre.
On a eu une demande des commerçants, une demande des adhérents de l'Office du Tourisme, qui sont aussi des commerçants, qui sont les commerçants de l'UCC, les commerçants, les adhérents de l'Office du Tourisme, ceux qui sont ni à l'un ni à l'autre. Effectivement, c'était une demande.
Alors, excuse-moi Morgane, j'aurais une remarque aussi par rapport, il y a deux lignes qui sont vierges, Carnac Tuk Tuk et puis Club Garde d'Enfants. Ça aurait été bien, donc, que OK, c'est peut-être leur première année, mais j'imagine que vous connaissez le coût, parce que, donc, quelque part, c'est un manque à gagner. Enfin, malgré tout, dans un prévisionnel, c'est un manque à gagner. Et là, on ne voit rien. Donc, j'aimerais savoir combien de patentes ils vont payer, que ce soit le Carnac Tuk Tuk ou le Club Garde d'Enfants. Non, mais bon, combien ils vont payer? Voilà, plus simplement. Voilà, exactement.
Monsieur Lejean, le grand argentier.
Alors, sur le club de garde-enfants ou club pyjama, c'est sur une base de 3000, enfin aujourd'hui on est sur du mètre linéaire, d'ailleurs pour Carnac Tuk Tuk aussi, qui ferait, sur le mode de calcul d'aujourd'hui, au tarif d'aujourd'hui, qui correspondrait à 3700 euros. Et pour Carnac Tuk Tuk, on est à la hauteur de 1300, 1280 euros, je crois, de mémoire.
Et pour une occupation du domaine public, sur combien de temps pour accorder pour chacun ?
6 mois. Avec la possibilité d'aller jusqu'à 8 mois, puisque je vous rappelle qu'on est une station classée, qu'on peut aller jusqu'à 8 mois.
Ma question, c'est tous les occupants spécifiques là sur le domaine public, ils vont tous demander une aide.
Je crois que vous n'avez pas bien suivi. Il y a un moment, on a pris une décision pour aider. Alors, on était en plein milieu du Covid. La commune de Carnac, c'est le groupe des élus s'est réuni. Sur ma proposition, on a pris une décision d'aider, de soutenir l'activité économique. On a commencé effectivement par la problématique du marché que je vous ai parlé tout à l'heure, où on était dans le vif du sujet. Et donc, derrière, pour une égalité de traitement, on a voulu soutenir tout le monde à travers l'Office du tourisme, à travers le marché et sur les différents moyens qu'on avait. Je vous rappelle que la compétence économique n'est pas une compétence de la commune, donc les seuls moyens qu'on a sont ceux-là.
Ok, c'est juste une question. J'avais bien suivi, donc.
Alors, est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Jean, toujours, le centre de secours de Carnac et la participation 2020.
Donc, vous avez tous le tableau devant vous. C'est pour le SDIS, hein, qui est situé sur la commune de Carnac. Donc, il est proposé la contribution pour 2020 pour la commune de Carnac à 239 179,42 €, sachant que nous avons 851,94 € de participation du SDIS, puisque nous avons des agents de la commune qui sont pompiers volontaires.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 12, nous ne le voterons pas aujourd'hui, puisqu'il n'était pas prêt. Il y a un certain nombre de mesures, je crois, c'est ça, qu'il faudrait valider. Donc nous retirons de l'ordre du jour. Il passera au prochain conseil municipal. Et on passe directement au rapport numéro 13. Alors, comme vous le savez, la collectivité, les collectivités et Carnac en particulier, sont propres assureurs en matière d'assurance chômage. Et nous avons besoin de solliciter, via une convention avec le centre de gestion du Morbihan, eh bien une aide dans le calcul d'un certain nombre d'indemnités et notamment des allocations chômage dans le cadre des départs volontaires. La complexité du droit du travail et son caractère assez mouvant nous incite à nous appuyer sur le centre de gestion pour être sûr de faire les bons calculs. Alors c'est évidemment quelque chose qui est très limité, hein, vous voyez les montants, et donc ça facilitera, je dirais, les travaux des services des ressources humaines de la commune et surtout le travail et des erreurs qui pourraient être commises dans un domaine qui est particulièrement complexe. Donc je vous demande l'autorisation de confier donc au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan le calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi et de m'autoriser donc à signer la convention qui s'y rapporte et de dire également que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport assez technique ? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et enfin, le dernier rapport sur la formation du personnel. Vous savez qu'il est une obligation légale eh bien, d'établir un plan de formation pour les agents de la commune. Il s'agit évidemment d'assurer, et ce plan de formation a été exposé auprès des agents, que nos agents puissent bénéficier non seulement des formations, mais d'un plan de formation pluriannuel avec des orientations stratégiques. Et donc ce document que vous avez pu consulter a été formalisé au titre d'un document donc, qui est obligatoire, je vous le rappelle, hein, au titre de la loi de février 2007. Et donc je vous demande, après évidemment vous avoir demandé si vous avez des questions sur ce plan de formation triennal, de l'approuver. Donc il porte sur la période 2020-2022. Il a été donc validé par le comité technique lors de sa dernière réunion. Et donc rappeler que ce plan de formation, et de le constater au titre de votre vote, qui est obligatoire, a bien été adopté par l'ensemble par le conseil municipal, et qu'il prescrit donc l'ensemble des actions de formation qu'elle prévoit. Est-ce qu'il y a des questions sur ce plan de formation qu'on sera amené à revoter donc pour au terme de cette période triennale? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Il n'y a pas de questions orales ni de questions diverses. Le conseil municipal est donc clos. Et nous nous retrouvons, monsieur Lejean,
le 10.
Le 10 juillet.
Juillet.
Merci à tous. Pour des chiffres encore. Merci à tous et bon week-end.